Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins.
Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi.
Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours.
On pardonne moins une femme de vieillir qu'un homme.
Ce sont toutes des femmes actuelles. Julia Vignali m'a donné rendez-vous dans le café d'un grand hôtel parisien. Ce jour-là, la météo est toute triste, mais cet échange m'a franchement réchauffé le cœur. Vous savez, ce genre de rencontre qui donne la pêche. Ses débuts de mannequin, son évolution à la télé, affaire conclue, on a retracé son parcours. Aujourd'hui, je me trouve avec Julia Vignali. On est un peu déprimées toutes les deux, il fait moche, c'est fin février. On s'est dit que peut-être cette conversation allait un petit peu nous remonter le moral. Bonjour.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Je vais essayer de vous remonter le moral. C'est vrai qu'il fait très très gris, il fait nuit, il faisait nuit à 14h.
Hein, oui, c'est vrai. Est-ce que le soleil s'est vraiment levé après
dire ? Il s'est levé dans mon cœur, Marie-Amélie, et dans le vôtre, j'espère.
Alors, Femmes Actuelles, le podcast, c'est l'occasion de donner la parole à toutes ces femmes qui ont fait bouger les lignes. Et vous faites partie de toutes ces femmes qui ont fait bouger les lignes, et oui. J'aimerais qu'on retrace un petit peu tout votre parcours. Et on va commencer par le début.
C'est logique. Je suis née un 13 juillet 75. On commence vraiment par le tout début.
Et bien, si vous avez envie de parler de votre enfance et que ça a un sens sur la personne que vous êtes devenue, logiquement,
ah ben
on
oui,
peut.
Toute enfance a un sens sur la personne qu'on est devenue. Écoutez, moi, j'étais une enfant assez solitaire, assez réservée. Mais je considère que je suis toujours une personne réservée d'ailleurs, ce qui étonne toujours mes interlocuteurs parce que j'ai l'air assez volubile et voilà. Mais moi, je suis assez timide. Et donc, j'étais une enfant timide et j'essaie de me débarrasser de cette timidité, notamment quand je suis à la télévision parce que c'est plus pratique. Mais je redeviens une timide dès que je rentre chez moi. J'aime bien être timide et j'aime bien être réservée. Voilà. Donc, j'étais une enfant réservée d'une famille très simple. Voilà. Un papa qui était visiteur médical et une maman... visiteur médical, je rappelle qu'elle allait faire quelques rendez-vous 5-6 par jour avec des médecins pour leur parler de médicaments. Et moi, ma mère travaillait à la SNCF, famille de cheminots, de mère en... mon grand-père était cheminot, ma mère travaillait à la SNCF, donc j'ai pas payé le train jusqu'à l'âge de 25 ans. Marie-Amélie, vous levez le doigt, vous êtes fille de cheminot aussi ?
Alors, arrière petite fille et fille de cheminot.
Ah bah alors, voilà. Commencer comme
on a
ça.
Un point commun.
Donc voilà, mon enfance. Et vous savez quoi ? Oui, mon enfance me construit, et je sais pas si c'est votre cas, mais j'aime beaucoup le train. Et quand j'ai le choix entre voyager par le biais du train ou par le biais de l'avion, je choisis toujours le train.
On est bien dans le train.
Travailler. Et mon papy, quand j'étais petite, on habitait à côté de la gare de Lyon. Enfin, il habitait à côté de la gare de Lyon. Et quand il me gardait le mercredi et qu'on ne savait pas quoi faire, comme on ne payait pas le train, eh ben, on allait gare de Lyon et on montait dans n'importe quel train.
Alors, c'est risqué ceci étant maintenant, parce qu'on peut se retrouver très loin.
Oui, à l'époque, c'était pas. Ils devaient bien choisir les trains. Et on arrivait à faire des allers-retours le mercredi. Je prenais le TGV avec mon papy. Et il me disait : t'as vu, là, ça va à plus de 200. Et c'était la folie, quoi.
C'est vrai.
Et c'était gratuit surtout. Voilà pour mon enfance.
Une enfance heureuse alors.
Voilà, une enfance beaucoup dans les trains.
Alors, on le sait peu, mais vous avez eu un tout autre métier avant d'être animatrice télé, travailler dans le marketing.
Oui, j'ai commencé, moi j'ai fait une école de commerce, j'étais une très bonne élève. Donc j'étais une enfant réservée, très bonne élève. Très bonne élève, pas tant que ça, enfin je m'y suis mis sur le tard, mais en tout cas j'étais une bonne élève au lycée, ce qui m'a permis de faire de grandes études, une prépa HEC, une école supérieure de commerce qui me destinait au métier soit de la finance, soit du marketing. Moi, j'étais déjà plus dans l'idée du marketing, de la communication. Et quand j'ai cherché mes premiers boulots, j'ai trouvé un stage en maison de disques parce que j'aimais beaucoup
la musique,
les concerts, tout ça. Et puis j'avais un copain qui avait trouvé un stage en maison de disques qui m'a dit : mais c'est génial, le matin on va bosser en basket. Et pour moi, c'était un bel argument.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Non, c'est vrai. Mais je trouvais ça tellement cool d'aller bosser en basket et j'aimais les concerts. Donc j'ai commencé à décrocher un stage chez Polygram. Et puis ensuite, j'ai été embauchée chez Universal Music. J'ai travaillé dans un label qui existe encore, évidemment, qui s'appelle Polydor. J'étais dédiée au service international. Donc j'allais chercher des artistes qui venaient en France. J'allais chercher à l'aéroport. Je parlais déjà très mal anglais, mais je leur faisais la conversation. Zucchero, Eagle Eye White Cherry, je me souviens de ces noms-là. Et je participais à ma petite échelle à leur succès. C'était mon premier métier.
Alors, il y a eu aussi, vous êtes apparue dans des publicités au départ, oui. Hein, c'est ça ?
Ah ben alors après, j'ai quitté donc ce métier du marketing. J'ai quitté, voilà, j'ai quitté le projet. Non, alors là, j'avais vraiment pas fait le tour, mais parce que vraiment, je ne faisais que commencer. J'ai fait juste le tour sur moi-même, le temps de m'apercevoir que j'envisageais pas de.
C'est pas fait pour vous.
Non, c'est pas ça. C'est que c'était l'entreprise. C'était vraiment très sympa la maison de disques. C'est ce qu'on faisait, à mon avis, peut-être de plus sympa en termes d'entreprise. Mais malgré tout, vous ne gommiez pas cet aspect entreprise, c'est-à-dire la hiérarchie,
la rentabilité,
tous ces trucs-là qui m'étaient assez étrangers. J'avais envie de plus de poésie et donc j'ai décidé de devenir comédienne à l'âge canonique de 25 ans, parce que 25 ans c'est tard pour décider de devenir comédienne. Et j'ai commencé à m'inscrire dans des agences de publicité pour faire comédienne de pub, en fait, parce que comme mes parents, SNCF, visiteur médical, je me disais que j'avais pas trop d'entrée dans le cinéma. Et donc je me suis dit, comment qu'on fait? Et là j'ai rencontré quelqu'un qui bossait dans une agence de publicité et qui me disait, mais des filles comme toi, on en cherche, nous, pour faire la voisine.
Des filles comme toi, ça voulait dire quoi?
Des filles un peu en proximité, comme ça, jolies mais pas trop, c'est-à-dire jolies mais pas top modèle, comédienne mais pas trop, c'est-à-dire qui s'est aligné trois mots, mais c'est pas non plus Marion Cotillard. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un métier en fait entre comédien, mannequin, bonne gueule, sympa, et je dis, mais voilà, j'ai une bonne gueule et je suis sympa, peut-être que je peux en faire un métier.
Ça peut être un tremplin aussi, peut-être?
Moi à l'époque, je pensais que ça allait être un tremplin. Moi je voulais être évidemment Charlotte Rampling et je voulais pas simplement manger des yaourts. Mais j'ai plutôt mangé des yaourts. Mais mais avec grand bonheur.
Garde un souvenir
génial. Pendant 10 ans, j'ai été comédienne de pub. C'est-à-dire que j'ai fait 5 ou 6 castings par jour. Un coup, il fallait être habillée de telle ou telle façon, etc. Donc en fait, je me suis grimée au moins 5 fois par jour. 5 fois par semaine, j'avais 25 castings par semaine pour décrocher le Graal, soit une pub pour les yaourts, soit une pub pour conduire une voiture, soit une pub pour me mettre une crème hydratante sur le visage. Et je trouvais ça génial. Et je pense que, au-delà du côté rigolo, que je tiens cette capacité à savoir me vendre et avoir confiance en moi de cette époque-là. Parce que quand 25 fois par semaine, il faut vous présenter, vous dire qui vous êtes et pourquoi vous seriez mieux que la voisine pour être choisie, je pense que ça rend.
Ça vient de là.
Ouais, ça vient de là.
Alors vous avez été Miss Météo aussi, la matinale de Canal+. À cette époque, on a l'impression que je parle il y a très longtemps.
Il y a au moins 15 ans. Hein.
Mais les Miss Météo, c'était quand même très cliché, en fait. Hein. Est-ce que vous avez vécu ça comme ça, en fait? Est-ce que vous aviez l'impression d'incarner quelques clichés?
Voilà, pas du tout.
Quel souvenir vous gardez de cette
période-là? Parce que les Miss Météo dont vous parlez et que moi j'admirais, c'était les Miss Météo du grand journal, qui était vraiment la messe du soir à l'époque. Et c'était pas moi, parce que c'était justement des nanas qui étaient beaucoup plus mannequins que moi, et je rentrais déjà pas dans les critères de beauté de ces femmes-là. Et je me souviens que quand la directrice de casting m'a appelée pour justement faire ce casting de la Miss Météo pour Canal, tout de suite j'ai pensé à ces figures-là et je lui ai dit, mais je suis trop vieille, j'avais déjà 35 ans, vous imaginez? Alors déjà que 25 ans pour être comédienne, c'était un âge canonique, alors pour être Miss Météo à 35 ans, c'était la folie. Je dis, mais jamais ça va marcher. Et elle m'avait dit, mais fais-le, parce que là c'est pour la matinale. Donc c'est pas les mêmes critères. Et donc on était déjà beaucoup moins dans les clichés le matin.
Okay.
C'était la Miss Météo du pauvre, mais dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire loin des clichés, et c'était très agréable à faire. Et j'en garde des super souvenirs. Et j'ai pas du tout eu l'impression d'être une potiche à ce moment-là. Mm-hmm. C'était pas du tout l'ambiance, tout l'ambiance de la matinale. C'était une émission d'info. C'était Maïté Nabiravin qui l'a dirigée. Autant vous dire que c'est pas une potiche et qu'elle aurait pas accepté d'en avoir une à ses côtés. Ça c'est sûr.
On s'en souvient un peu aussi, mais vous avez fait des apparitions dans quelques films. Je me souvenais pas, mais dans La Beuse de Michael Youn.
Oui, Alors oui, j'étais coupée au montage dans la Beuse. C'est pour ça que vous vous en souvenez pas. Par contre, je suis sur le DVD des gens coupés au montage.
Alors, mes sources ne sont pas bonnes, pardon. Mais vous avez été coupée au montage alors.
Oui, oui, voilà, j'ai fait partie de ces gens coupés au montage. Et la seule bonne nouvelle de cette expérience, c'est que grâce au fait que j'ai été coupée au montage, le réalisateur François Dezania, adorable, qui était hyper emmerdé pour moi, parce que c'était juste mon premier rôle, vous êtes coupée, ça ne donne pas un très bon signe pour la carrière, m'a proposé de participer au DVD avec une émission animée par Édouard Baird, qui recevait tous les gens coupés au montage et une sorte de talk show, genre pourquoi j'ai été coupée au montage. Donc en fait, cette expérience s'est transformée en franche rigolade.
En running gag.
Vous
après.
Ne me verrez pas dans la Beuse, mais vous me verrez dans le supplément DVD avec Édouard.
Ok, alors je vais rattraper ce retard parce que je me suis dit mince, je n'ai aucun souvenir.
C'est normal.
Donc c'est normal. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Quels sont après comment ça s'est enchaîné et surtout comment vous avez été approchée déjà cette première fois? C'est quand même quelque chose de faire son entrée dans le cinéma, c'est quelque chose que vous espériez.
Non, bah, l'entrée, vous avez vu l'entrée. Bon,
l'entrée un peu ratée.
Ouais, l'entrée complètement ratée. Non, en fait, la période dont vous parlez, c'était la période où j'étais comédienne de publicité. De temps en temps, il est vrai qu'on me proposait un peu des petits rôles comme ça, à droite à gauche, dans le cinéma. Mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Et donc, c'est pour ça que... toute cette période de pub ou de petits rôles comme celui que vous indiquez, il y en a eu plusieurs. J'ai fait des téléfilms aussi.
Oui. Seconde chance.
Et alors ça, c'est après.
C'est encore
parce que,
après. D'accord.
Parce qu'en fait, pendant cette période-là, j'ai eu pas mal de petits rôles comme ça, mais pas beaucoup de jours, comme on dit, pas beaucoup de cachets, tout ça. Et en fait, j'ai dû attendre effectivement Seconde chance, qui a été vraiment le premier grand rôle qu'on m'a proposé, c'est-à-dire avec une vraie récurrence. 180 épisodes.
C'est quand même la première fois qu'on proposait un feuilleton quotidien.
Exactement.
Et quand on voit le carton en ce moment, c'est
exactement.
Plutôt
hallucinant. On était précurseurs. Vous savez quoi ? On est arrivé 10 ans trop tôt. Ben, si Seconde Chance était lancée maintenant, ça pourrait être un phénomène de société. Je le dis parce que c'était vraiment très marrant. On m'en parle souvent. Il y a des gens, généralement les insomniaques, parce que c'est rediffusé entre 3h et 5h du matin. Donc des insomniaques. À l'époque, ça a été diffusé à 16h en pleine journée, donc c'était pas évident. Ça a été un peu sacrifié en fait. Donc maintenant que je parle avec vous, je suis en train de me dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai tenté de faire du cinéma, soit j'ai été coupée au montage, soit j'ai été sacrifiée à 16h. Donc c'était pas mon karma d'être comédienne. Vous voyez, c'était pas mon karma.
Si cela avait marché, vous auriez aimé avoir un rôle récurrent comme
mais
ça dans
évidemment.
Une série.
Bah oui, c'est mais plutôt... Moi, quand je fais les choses, j'y vais à fond. Moi, j'étais partie pour être comédienne. Et je passais, je vous dis, 25 castings par semaine pour l'être. Donc j'étais extrêmement motivée. Mais force est de constater que ma vie a changé à partir du moment où j'ai commencé la télé. Il y a eu comme une évidence. Il n'y a plus jamais eu de galère. Moi, j'ai jamais été une galérienne, même au moment de la comédie, parce que ça a toujours bien marché par le biais des publicités. Donc j'ai toujours bien gagné ma vie, j'ai voyagé, je n'étais pas en manque de travail. Mais en tout cas, ce n'était pas non plus hyper intéressant, vous voyez, comme rôle.
Mais encore récemment, vous avez vu dans une série Pamela Rose aussi.
Oui, mais là encore, vous avez vu? Vous l'avez
c'est...
vu ou pas?
Non.
Bah parce
non,
que
non, non.
Voilà, faut...
C'est assez court.
Ah bah c'est court, hein. C'est trop court. Hein. Mais non, mais parce que Danny Boone m'a gentiment aussi proposé de faire une participation dans son film, Michel Larocque. Et à chaque fois, évidemment, je dis oui, parce que quel bonheur de participer. Mais moi, je considère, pour avoir fait ce métier, tenter de le faire en tout cas...
C'est peut-être juste
c'est un clin d'œil. C'est une participation. Pour moi, c'est pas ça jouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas faire 30 secondes dans un
mais
film.
Est-ce qu'il n'y a pas un jour où ça va changer où
ben
ça
peut-être
va être
un jour. En tout cas, je pense que j'ai mon petit talent de comédienne sur certains emplois. Hein, je peux pas tout faire. Mais je suis pas dénuée de talent sur la comédie. Mais je fréquente beaucoup les artistes, je les interview moi aussi, et j'ai une grande, grande, grande admiration pour les comédiens et les comédiennes. J'étais encore il n'y a pas si longtemps en train d'interviewer Karine Viard. Il y a un moment donné, voilà, vous voyez, je sais reconnaître les très grands acteurs et les très grandes actrices, et si j'en avais fait partie, on le saurait déjà.
Non, franchement,
l'avenir nous dira le reste.
Je ne pense pas. Je pense que parfois il y a
un temps pour tout. Vous pensez
il y a un temps pour tout. Oui.
Mais c'était pas mon moment.
Donc c'était la télé pour vous. Pour vous, vous êtes arrivé au must.
Mais la télé, c'est pas ça. Ça s'est déroulé comme une évidence. Alors, à un moment donné, moi, j'ai pas envie de souffrir. Hein. Donc, quand je vois qu'on m'attend à un endroit plus qu'à un autre, j'ai tendance à aller à l'endroit où on m'attend. C'est un peu ma philosophie de vie. Donc, quand j'ai vu qu'en fait mon profil plaisait en télévision, j'ai commencé effectivement par la matinale de Canal. Très vite, au bout de 2 ans, j'ai été débauchée pour faire la présentation de l'émission Les Maternelles. Qui était quand même, qui est toujours d'ailleurs une référence en termes d'émissions de parentalité, etc. Donc ça, quand même, c'était un sacré gap pour moi, un sacré challenge que j'ai adoré. Évidemment, mon enfant avait 3 ans, donc c'était le paradis d'animer une émission sur les sujets qui étaient les miens. Et après, bah, y a eu Le Meilleur Pâtissier, alors encore une émission qui cartonne avec, je sais pas, une super image, une émission patrimoniale qu'on regarde en famille, etc. Donc encore l'autoroute. Et puis après, il y a eu Télématin, donc là encore l'émission que tout le monde regardait quand on était petit, patrimoniale, familiale, enfin géniale. Et me voilà maintenant sur Affaires Conclues, et ça recommence, une émission que tout le monde adore. Donc j'ai un bol terrible en tant qu'animatrice, beaucoup plus qu'en tant que comédienne.
Mais parce que vous savez vous vendre.
Mais parce que je sais me vendre, certainement. Ça, c'est mes années de casting
qui m'ont aidée. Et parce que vous êtes très bonne dans ce que vous faites, évidemment.
Oui.
Mais je pense que, je me souviens, quand je vous avais interviewé à l'époque du Meilleur Pâtissier, tout le monde vous posait la question au début, est-ce que vous aimez la pâtisserie, et vous vous mariez en disant que non, vous ne saviez pas faire un gâteau.
Oui,
et qu'après, au fur et à mesure, vous avez acquis quelques compétences. Là, Affaires Conclues, je crois que c'est pareil. Vous n'aviez pas forcément de connaissances très pointues sur... Et j'admire, je dois le dire, cette capacité à... Allez, j'y vais, quoi. Et je me pose pas de questions sur le domaine d'expertise, parce que de toute façon, c'est pas ça qu'on attend de moi, hein, bien sûr hein, mais...
Mais vous avez raison, je pense que ça vient de mes années de casting où de toute façon, il fallait y aller. Quoi. C'est, voilà, vous êtes face à la caméra et il faut bien dire quelque chose. Hein, faut pas être démuni. Donc j'ai appris à avoir de l'aplomb. Voilà. Pour quelqu'un qui est un peu timide, c'est pas mal. J'ai appris à avoir de l'aplomb, à pas me laisser dépasser et à donner l'impression, après la réalité on s'en fiche complètement, on fait de l'image, à donner l'impression d'être quelqu'un comme on a envie de le voir. Ça, je sais très bien le faire. Et donc c'est vrai que je pense pouvoir donner l'image, la bonne image, pour incarner certains programmes.
Il faut en pas mettant l'image... votre petite patte aussi.
Voilà, il ne faut
parce
pas
que
l'image elle soit trop loin de ce que je suis. Parce qu'autrement...
Je me souviens, au moment du Meilleur Pâtissier, voilà, c'était juste après Faustine, je crois.
Oui, mais à chaque fois,
je
passe après des gens super compétents et super aimés. Quoi. Mais ça, c'est l'histoire de la télévision. Je suis passée après Karine Lemarchand dans Les Maternelles, après Faustine Bollard dans Le Meilleur Pâtissier, après William Lémergie dans Télématin, après Sophie Davant dans Affaires Conclues, et bientôt après Laurent Delahousse dans Le 20h. Non, je rigole. Ça n'arrivera jamais.
On va le prévenir.
Je rassure Laurent Delahousse.
C'est un petit peu courant quand même.
Qui me connaît, et je n'ai absolument pas envie de faire un JT, je le précise. Non, mais c'est génial. C'est génial d'être toujours. Enfin, pas d'être toujours, mais moi je prends très bien le fait d'être appelé pour prendre la suite de gens qui ont marqué les émissions. Et, enfin, je le prends très bien parce que par ailleurs ça marche tout aussi bien. Parce que si ça marchait moins bien, je le prendrais mal.
Ouais, j'imagine que les premiers temps, on est à l'affût des audiences, voir s'il y a un effet. Bon,
moi je suis toujours à l'affût des audiences. Je connais quelqu'un qui est à côté de moi qui peut le dire.
Ouais, mais en même temps,
mon attaché de presse, Françoise, qui est à côté de moi et que je saoule souvent. Quand il y a une très très belle audience, je veux qu'elle le sache et qu'elle potentiellement le fasse savoir. Et quand il y en a une mauvaise, évidemment, je ne l'appelle pas. mais pour moi, c'est très important que les gens regardent l'émission.
Et ça fout la trouille de, quand on vous appelle, par exemple, pour Télématin, puis ensuite pour Affaires Conclues, de se dire « faut que j'y aille ». Non, vous y allez.
Moi, j'ai pas du tout peur. Au moment où on me propose le poste, à chaque fois, je regarde mon interlocuteur et je le rassure. Je le rassure. Je lui dis que je suis la bonne personne. Je suis voilà. Et une fois sur place, le jour J, je me dis maintenant faut y aller. Comment qu'on fait?
C'est là que le stress monte.
Même pas. Il y a une forme d'inconscience. Vraiment, il y a
c'est l'adrénaline alors.
Oui, c'est l'adrénaline. Moi, je suis très inconsciente. Là, j'ai fait un prime récemment en direct, et c'est vrai que c'était mon premier prime en direct, et j'ai été tout à fait inconsciente. Je me suis rendu compte à 5, 4, 3, 2, 1, ce que c'était. Et c'est quelque chose en fait. C'est-à-dire que c'est génial. C'est extraordinaire.
On sent une sensation.
Mais on sent que c'est trop tard. On sent que c'est trop tard.
On n'a pas peur de faire une connerie. Mais je me pose toujours la question de dire une énormité. Le cerveau déraille.
On le dit avant. On le dit avant à ses collègues. On dit des énormités par peur. Mais si vous me dites ça, Marie-Amélie, c'est que certainement, vous avez vécu ce qu'on a tous vécu dans une salle de cours, avoir envie de se lever et de crier des insanités à un moment donné. ou dans le métro, on a tous envie de décompenser. Mais j'évite de le faire en direct à la télévision.
Il vaut mieux se contrôler un minimum.
Voilà, exactement, mais c'est normal, il y a un vertige. Ce dont vous parlez, c'est le vertige, finalement. Ça, c'est génial d'avoir le vertige.
Et après, ça donne un sentiment de satisfaction.
Mais c'est pour ça que les gens sont accros, je pense, à la télévision, non ? C'est que... J'imagine.
L'impression d'être tous ensemble devant un programme aussi.
Oui, c'est très fédérateur. Et tous les programmes dont on vient de parler, le dénominateur commun, si vous me posiez la question, c'est le côté fédérateur. C'est que des programmes qui fédèrent les gens. Mais c'est vrai, c'est fou, non ? C'est des programmes, moi j'appelle ça patrimoniaux, parce que c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire qui font partie du PAF, vraiment du paysage audiovisuel français.
On a annoncé la mort de la télévision il y a quelques années, mais elle est loin d'être morte en réalité.
En fait, ce qui n'est pas mort, c'est la diffusion par le biais des écrans et le lien, effectivement, on voit toutes ces émissions qu'on peut regarder en famille qui cartonnent, en fait, c'est les seules à véritablement cartonner. Et c'est le cas d'Affaires conclues. Hein. Les grands-parents qui regardent avec les petits-enfants. Hein. C'est ça l'histoire d'Affaires conclues. C'est ça aussi le succès d'Affaires conclues. Moi, j'ai des témoignages. Maintenant, j'ai des gens de mon âge qui m'arrêtent dans la rue en me disant « Ma grand-mère vous regarde ». Donc ça veut dire qu'il y a des gens très âgés qui me regardent. Et puis, j'ai aussi des gens qui m'arrêtent en me disant « Oh là là, ma petite-fille vous regarde, elle vous adore. Pendant les vacances scolaires, on vous a regardé. »
Vous avez raison. C'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, nous, on était réunis en famille. On a branché Affaires conclues. Moi, j'adore cette émission en plus.
Moi aussi, j'adore cette émission. J'adore cette émission. Et ça passe très. Ça passe...
Et on reste devant et on s'extasie devant une statue de bronze.
Et on est d'accord qu'en famille, ça passe crème. Mais... On est bien avec un petit plaid là et puis on regarde.
Un petit thé, des petits gâteaux. Ah non, c'est parfait.
Mais oui, c'est l'émission parfaite Affaires conclues.
Mais vous aimez bien les émissions un petit peu cocooning, que ce soit télé matin, voilà, on se réveille. En douceur. Ouais. Voilà, parfois l'actualité fait que c'est pas du tout en douceur, et souvent d'ailleurs l'actualité fait que c'est pas en douceur, mais en tout cas vous essayez d'apporter du positif. Les meilleurs pâtissiers, c'est pareil, c'était l'incarnation
très cocon
et là Affaires conclues, c'est totalement ça également.
Alors c'est pas moi qui décide, hein. c'est les diffuseurs qui viennent me chercher et qui me proposent ce genre d'émission. C'est que je dois être plus la femme avec qui on a envie de se réveiller que celle avec qui on a envie de se coucher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la morale de l'histoire, c'est l'histoire de ma vie, ça me va.
C'est peut-être en train de changer, on vous confie de plus en plus de prime.
Je suis matinale, je suis tout à fait matinale.
Mais pas trop, je pense que vous êtes contente.
Ah bah, en 3h30, c'est pas matinale. C'est quand je me réveille. Non, mais par contre, me lever à 6h tous les matins, ça me va tout à fait, oui, ça j'adore. Mais oui, apparemment, je suis celle avec qui on a envie de se réveiller. C'est un beau compliment, non ?
Oui, c'est vrai. Il y a un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années. En tout cas, beaucoup de femmes ont osé parler de tout ça. C'est le sexisme et les agressions sexuelles dont elles avaient été victimes. Le milieu de la télé, comme le milieu du cinéma, ne sont pas des milieux épargnés, bien évidemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement des formes de,
oui,
de
des
sexisme
formes, ah oui, tout le temps, en fait. Des formes de sexisme tout le temps. C'est marrant, je ne vois pas quand je ne l'ai pas vécu, en fait. Je suis plutôt en train de me dire, quand est-ce que je n'ai pas vécu ça ? Non, toujours. Après, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, que ça ne soit jamais suffisamment, je dirais, horrible pour ne pas avoir de porte de sortie, etc. etc. Mais oui, j'ai trouvé des comportements très injustes. Et comme je suis très sensible à l'injustice, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Et après, je suis assez... Je suis un peu colérique, en fait. Donc, quand je vois quelque chose qui est très injuste, je ne le laisse pas du tout passer. Je ne laisse pas les situations s'embourber. Donc, à chaque fois que j'ai eu affaire à une situation qui me paraissait injuste parce que j'étais une femme ou parce que j'étais la femme que j'étais, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis battue. J'y ai laissé des plumes, mais je me suis vraiment battue. Mmh. Et je sais qu'à plusieurs reprises, mes collègues féminines m'ont fait part... et notamment mes jeunes collègues féminines m'ont fait part du fait qu'il avait été inspirant pour elles de me voir me battre. Et ça me... Il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que ça. Ça me fait extrêmement plaisir quand des jeunes femmes me disent « Bah ouais, t'as bien fait de répondre ça. Et quand tu as répondu ça ou quand tu m'as défendu face à ce comportement-là, je me suis sentie écoutée par toi. » Pour moi, c'est essentiel. J'ai pas eu la chance d'avoir une fille. J'aurais adoré avoir une petite fille, ne serait-ce que pour lui inculquer ça. Donc comme je ne peux pas le faire avec ma fille que je n'ai pas, mais je l'ai fait avec mon fils que j'ai. Comme
c'est important aussi de le faire pour les garçons.
Évidemment, c'est très important. Je le fais.
C'est aussi important.
Je le fais vachement, j'adore. Maintenant, je suis à l'âge où on peut avoir des stagiaires. Je suis à l'âge où on peut avoir des collaborateurs. Voilà. Et donc, quand ce sont des femmes, on a toujours ces discussions. Et quand je vois qu'il y a des situations d'injustice, je suis toujours... Elles savent qu'elles peuvent compter sur moi et c'est très important. Et je crois que les hommes qui m'entourent savent aussi que je suis pas commode. Mmh. Donc j'ai de moins en moins de problèmes.
Mmh. Oui. Mais alors, est-ce que c'est lié à cette libération de la parole? Mmh. Ou est-ce que c'est aussi en prenant un petit peu d'expérience, d'âge?
Je pense que c'est lié à l'expérience et à l'âge. Mmh. Mais parfois, même à mon âge et à mon expérience, on peut encore être cueilli par des comportements tout à fait inadaptés. Mmh. Tout à fait à côté de la plaque. Tout à fait à côté de la plaque. Mais...
Par exemple, dans des choses qu'on va refuser et qu'on va accepter un homme ou oui, des salariales.
Mais une certaine forme de déférence qu'on peut avoir à l'endroit d'un homme qu'on n'aura pas à l'endroit d'une femme qui pourtant a le même poste, vous voyez, ça m'exaspère. Ça m'exaspère.
De devoir faire beaucoup plus que les hommes.
Voilà, et de devoir faire allégeance parce que on protège beaucoup plus les hommes et nous, les femmes, la plupart du temps, il faut qu'on se taise et qu'on aille au charbon et qu'on accepte soit des remarques, soit tout simplement un manque de reconnaissance. Parce que nous, les femmes, on n'a pas besoin de nous dire que c'est bien. Vous voyez, ça m'agace prodigieusement. J'adore les femmes. J'adore les femmes. Alors, une fois qu'on a dit ça, super. Et je pense le prouver. C'est-à-dire que je suis toujours hyper fière d'une collaboration féminine. Toujours. Enfin, quand ça marche bien avec un homme, c'est cool. Mais quand ça marche entre femmes...
C'est encore plus cool.
Ouais, c'est encore plus fort, je trouve.
Cette sororité, cette entraide, que
je croise très rarement. Hein. C'est-à-dire que je crois à la sororité, j'y crois très fort. Ça me passionne comme sujet. Mais la vérité, c'est que je la croise trop peu dans nos métiers. Et je ne suis pas la seule à le penser. On la croise trop peu dans nos métiers.
Peut-être la génération qui arrive est beaucoup plus... sensibiliser à ça aussi. Je pense.
Alors, sensibiliser, elles le sont, ça c'est certain.
Mais est-ce qu'elles vont
mettre en pratique? Parce que nous, le mot sororité, moi, il y a 10 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
C'est vrai.
C'était pas très joli comme mot.
Non, c'est vrai que c'est moche.
Ouais, c'est moche. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, maintenant, je sais ce que c'est. Il se trouve que j'ai la sensation de l'avoir toujours pratiqué parce que moi, j'ai des très bonnes amies femmes et j'aime collaborer avec des femmes. Mais je sais qu'on peut être nos pires ennemis aussi. Mm-hmm. Je le sais. Mm-hmm. Moi, la majorité des gros problèmes que j'ai eu dans ma carrière, c'est avec des femmes.
Des femmes qui vous ont mis des bâtons dans les roues.
Et les plus belles joies que j'ai eues dans ma carrière, c'est avec des femmes.
Avec des femmes.
Donc, je pense qu'il faut aussi que nous fassions notre examen de conscience. Et tout simplement, ce sexisme ordinaire qu'on vit tous, quelle que soit notre expérience, si on était déjà, nous, les femmes, plus solidaires, donc plus en sororité, je pense qu'on arriverait à les atténuer, au moins les atténuer.
Alors, on va revenir sur Affaires Conclues. Donc, vous avez repris l'animation d'Affaires Conclues en septembre et vous avez succédé à l'animatrice première et qui n'est pas n'importe qui est Sophie Davant. Voilà. Est-ce que ça a été difficile de succéder à une femme comme elle et,
Ça n'a pas été plus difficile de succéder à Sophie Davant que de succéder à William Lémergie ou à Karine Lemarchand ou à Faustine Bollard. Ça a été un challenge. Mais comme je vous le disais, je suis assez habituée à passer après des grands noms de la télévision. Donc ça m'a paru normal. Par ailleurs, personne n'est irremplaçable. C'est certain. Moi-même, apparemment, je ne le suis pas. Et c'est bien dommage.
Il y en a une qui suit vos traces, Marie Portolano.
Et oui, exactement. Donc vous savez que Marie Portolano présentera Affaires Conclues, mais dans 30 ans, par contre. je ne vais pas lâcher l'affaire tout de suite. Donc Marie pourra présenter Affaires Conclues dans une trentaine d'années si elle est toujours motivée. Je rigole, c'est une copine.
Rigolo de voir un petit peu les...
Mais c'est des familles d'animatrices peut-être, tout simplement. Oui. Des familles d'animatrices. On ne doit pas être si étrangères l'une et l'autre. Donc voilà. Mais non, par rapport à Sophie Davant, c'était plutôt... Je n'ai pas vu ça comme une charge. J'ai plutôt vu ça comme un challenge et comme un compliment et non pas comme un truc insurmontable. Encore une fois de plus, l'inconscient qui me caractérise.
Alors après, il y avait quand même tout un tas de personnes qui gravitent, enfin qui sont dans cette émission. Je pense à Caroline Marjorie, donc, qui est amie avec Sophie d'avant. J'imagine que.
Mais c'est mon amie aussi. Hein.
Voilà, mais au début, j'imagine qu'elle vous attendait un petit peu au tournant, je pense.
Peut-être. En tout cas, elle m'a dit.
Je me souviens, on s'était rencontrés dans le cadre de ce podcast au moment où vous étiez arrivée. Je crois qu'elle sortait du tournage de la première émission. Elle me dit, j'observe.
Oui, mais alors, elle n'a pas observé longtemps parce que je pense qu'elle est tombée en amour, et moi aussi. C'est une femme formidable que j'aime beaucoup. J'imagine, oui, qu'elle s'est dit, Sophie, c'est ma pote, c'est qui la nouvelle, normal. Mais on parlait de sororité tout à l'heure. Moi, je reconnais en Caroline une femme qui aime les femmes. Et je crois que j'ai pas mis beaucoup de temps, ni elle ni moi, on n'a pas mis beaucoup de temps à être séduites l'une par l'autre. J'aime beaucoup la femme qu'elle est. Elle est géniale. Et si elle me donne un peu de son amitié, c'est déjà très bien.
Voir comment elle a réussi dans ce domaine.
Mais elle est géniale.
Elle est géniale. Une prouesse.
Je suis allée à lui rendre visite là, il y a 2-3 semaines. J'étais la voir sur son stand des puces au marché Biron. Et je l'ai vue faire avec des gens qui rentraient dans la boutique. Mais je me suis dit, mais c'est une artiste. Là, elle parlait des objets. Elle était super, super forte, hyper commerçante. Crevante. Bah, c'est Caroline Marjorie, elle est crevante.
Je crois qu'elle est plus son partenaire de danse avec les stars.
Elle est crevante, elle le sait. Et moi, je la trouve adorable. Voilà. Donc, j'ai rencontré des gens formidables sur Affaires Conclues. Vous parliez de personnages saillants comme Caroline Marjorie, mais moi, je suis tombée en amour d'Harold aussi. Alors, normalement, c'est l'école des fans. On est censé aimer tout le monde pareil. Mais il est vrai qu'il y a quelques personnages saillants comme
forcément,
ça.
Forcément, on a des affinités.
Globalement, avec certains. Je m'entends bien. Et ça, il y a vraiment une formidable ambiance. Il faudrait un jour que vous veniez sur le plateau d'Affaires Conclues pour vous en rendre compte, c'est vraiment très sympathique. Mais il est vrai que par exemple quelqu'un comme Harold, c'est ma passion. Harold, c'est la passion de ma mère aussi, c'est la passion de beaucoup de gens. Harold est génial.
C'est le gendre idéal.
Oui, ce petit côté suranné comme
même
ça.
Même si c'est un peu sexiste de dire ça, pardon.
Oui,
je me rends compte.
Oui, oui, bah moi aussi parfois je me rends compte que c'est un peu sexiste, mais il en joue parce que c'est tout sauf un gendre idéal. Donc c'est un coquin. Harold.
Le gendre idéal moderne.
Oui, c'est un gros coquin, Harold. Je dis à tous vos auditeurs. Il est très très marrant et sous ses airs comme ça un peu je sais pas comment dire classique disons, c'est un déglingo en fait. Je sais pas s'il entendait le mot déglingo, il dirait
je ne me reconnais pas du tout là-dedans.
Non mais il adore faire des petits pas de côté comme ça. Il est très pince sans rire à l'anglaise. Il est formidable ce garçon, sa personnalité que j'aime beaucoup, et par ailleurs son savoir sur les objets qui me passionne. Je pourrais l'écouter parler des heures, mais lui et les autres commissaires priseurs, je pense à Yves, je pense à Delphine, je pense à Diane. Mais je les adore, et à chaque fois ils racontent une histoire. C'est pas la même façon de raconter l'histoire de l'objet. Harold ne raconte pas l'histoire de l'objet de la même façon que Delphine. Et c'est et moi franchement j'ai l'impression à chaque fois qu'on lit l'histoire du soir, vous voyez, qu'on ouvre un livre, et il était
mais
une
la
fois.
Sensation qu'on a en regardant cette émission de
il
toute façon
il était une fois un bougeoir du 17e siècle.
Là il va s'animer, il va nous parler le bougeoir.
Mais c'est, voilà, donc et ça c'est le côté de la c'est du côté de la salle des enchères, et puis du côté de la salle des ventes, j'y suis moins, mais parfois j'y vais pour voir les enchères s'envoler, féliciter le grand gagnant. Mais c'est génial cette émission, et je sais pas qui l'a inventée, mais c'est dommage que ce soit pas moi, parce que c'est un truc de génie ça.
J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Justement, lorsque j'ai rencontré Sophie Davant, qui a été l'une des premières invitées de ce podcast, on parlait de la difficulté de vieillir à l'antenne. Elle me disait que voilà, la manière de s'habiller est critiquée. Quand on est une femme, on regarde les rides. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, vous, de vieillir à l'antenne et d'être potentiellement critiquée, analysée sans cesse ?
Alors, je m'en fiche complètement. J'arrive à me détacher, heureusement, de l'image qui est la mienne. Autrement, j'en serais très, très malheureuse. C'est sûr que je suis plus la même que sur la matinale de Canal+. En même temps, c'est normal, j'avais 15 ans, voire 20 ans de moins. Donc oui, je ne fais plus du 36 de confection depuis bien longtemps. J'ai des rides, j'ai les paupières un peu plus tombantes, etc. Mais c'est l'avantage et le désavantage de nos métiers, c'est que comme c'est un métier d'image, l'image change avec le temps, et heureusement. Si elle était figée, tout le monde dirait elle n'a pas d'âge. Donc là maintenant on sait que j'ai mon âge. Moi je trouve que vieillir sur le service public, déjà c'est peut-être le meilleur endroit à la télévision.
Un peu plus facile, oui.
C'est déjà plus facile, mmh. parce qu'il y a une vraie représentativité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc je pense que c'est pas le plus mauvais endroit pour faire carrière quand on a dépassé l'âge de 40 ans. Enfin, moi j'approche plutôt de celui de 50. Et vous voyez, c'est marrant cette petite coquetterie. J'ai dépassé 40, en fait ça fait 8 ans que j'ai dépassé 40 ans. C'est mignon.
Et justement, bon, allez, on a encore 2 ans, mais l'approche de la cinquantaine, c'est souvent vu par les femmes. Enfin voilà, on parle souvent de ce cap des 50 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez
J'ai vraiment aucun souci avec mon âge. Mmh. Aucun souci pour dire que j'ai 48 ans. Aucun souci pour dire que donc dans 2 ans, puisqu'on sait bien compter, j'en aurai 50. Je trouve ça génial. Enfin, c'est pas... Avoir la chance de vieillir, avoir la chance d'être en vie, en bonne santé. Je sais pas, je trouve ça... J'étais peut-être une femme plus fine et plus jolie à 30 ans, j'en sais rien, mais pas... Je me sentais moins bien dans
peut-être
mes baskets.
Pas aussi épanouie que maintenant.
Oh oui, là, je me sens très, très bien. Je suis qu'avec des gens que j'aime, parce que les gens que je trouvais toxiques ou qui ne me correspondaient pas sont sortis de ma vie parce que je l'ai décidé. Je fais un métier qui me plaît parce que tout ce qui n'était pas exactement ce que je devais faire ne fait plus partie de ma vie. Mmh. Donc, en fait, on est très centré quand on vieillit. On voit peut-être moins de gens, mais on voit les bons et on fait les bons choix. On arrive à dire non. Moi, je dis non à plein de trucs et je gagne du temps en disant non. Je sais pas, je me sens beaucoup... Alors oui, si vous me posez la question, est-ce que j'aimerais être cette femme qui approche la cinquantaine avec le physique de la dame qu'elle était quand elle avait 30 ans?
Probablement que oui, mais
probablement
bon,
que oui,
parce
mais
que c'est important.
Moi, je m'en fous. Mmh. Moi, je m'en fous. J'ai envie d'être une belle femme vieillissante. Voilà. J'ai envie d'être une jolie femme qui vieillit. Je trouve ça déjà pas mal.
C'est déjà bien.
Hein.
Bon
et quand vous voyez la beauté de cette femme, j'ai vu un film avec Fanny Ardant. Mais je viens de voir un film avec Fanny Ardant, une comédie qui s'appelle Les Rois de la Piste, que je vous conseille d'ailleurs, qui est formidable. Mais elle est d'une beauté et je suis allée voir son âge, donc je vous le dirai pas parce qu'elle a pas forcément
vu Kassovitz. Hein, c'est
avec Kassovitz, c'est une beauté, mais on oublie complètement. Enfin, son âge n'est, enfin, c'est
incroyable. J'ai juste vu la bande annonce et je me suis dit la même chose que vous.
Elle
je me suis
est dit, dingue. Wow. Je l'ai interviewée par ailleurs pour un autre film il y a pas longtemps et je me suis retrouvée face à cette femme, mais elle est dingue. Mais d'une beauté, mais et à ce moment-là, quand vous regardez Fanny Ardant, vous avez pas envie d'avoir 30 ans, vous avez envie d'être Fanny Ardant. En fait.
Est-ce que cette médiatisation aussi, elle est lourde à porter? J'imagine qu'on vous reconnaît évidemment dans la rue.
Oui, alors pas tant que ça. Alors, comme me dirait mon fils, c'est parce que je t'ai pas maquillée dans la vraie vie, maman. Là, vous me voyez, j'ai ma tête d'animatrice, mais c'est vrai que dans la vraie vie, parfois je mets un petit coup de mascara et je suis moins apprêtée. Et pour le coup, je suis en basket. Donc, oui, on me reconnaît. C'est pas la folie, hein, ça va, je prends le métro, je suis pas très embêtée par ma notoriété. Je connais des gens autour de moi bien plus connus où c'est bien plus embêtant. Moi, ça passe crème. Je suis à un niveau de notoriété qui est génial. C'est-à-dire que je peux avoir une bonne table au resto et je peux prendre le métro.
Mais il y a quelque chose, je sais, vous dites stop, c'est toutes ces questions sur votre vie privée.
Ah oui, parce que là... vous qui êtes un magazine qui rendait hommage aux femmes, mais pourquoi? Déjà parce que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est mon intimité, mais au-delà de ça, c'est vraiment pour moi le côté féministe dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de mon mari, de moi, très souvent? Ça peut arriver. Et quand ça arrive, limite, j'en suis fière. C'est ton tour maintenant.
C'est ton tour maintenant.
Mais en vrai, c'est toujours à nous les femmes. C'est toujours nous les femmes
à qui on pose la question
de « et alors ?»
Et être réduite à être la femme de...
Et puis la question, c'est quelle question? Si vous pouviez me poser la question, quelle serait la question? Ça va être « est-ce que votre mari... » est content de ce que vous faites, voilà. Non mais c'est quoi la question? Il n'y a pas de question. Si mon mari était mon producteur, si mon mari était un...
Non mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a toujours des questions, mais sur toutes les personnalités.
Question, elle est liée au travail. Si par exemple, vous faites avec votre mari, je ne sais pas moi, un film, une aventure, et qu'à ce moment-là, ce n'est pas de votre mari dont on parle, c'est de l'aventure professionnelle que vous avez vécue ensemble. Si c'est juste pour m'entendre dire est-ce qu'il est content quand il regarde Affaires conclues, je trouve qu'effectivement c'est pas me rendre hommage et ça ne fait pas lui rendre hommage, ni à moi, ni à lui, ni à l'émission par ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez regardé un un petit peu les questions qui sont posées sur vous sur Internet.
Ah oui, genre quand on tape Julia Vignali,
voilà.
Alors il y a Julia Vignali enceinte, donc ça, je rassure tout le monde, j'ai 48 ans, là c'est mort. Donc non, c'est pas ça, donc, non mais j'ai vu ça bien sûr.
Mais Julia, c'est vraiment autour de
enceinte,
votre
Julia
privée.
Vignali compagnon, voilà. Donc, avec ouais. Qui elle sort. Est-ce que, pourquoi
et pas... je crois qu'il y a, quelle émission présente
ah
Julia Vignali? Il me semble que c'est la troisième.
Ah d'accord.
En tout cas quand j'ai regardé ce week-end.
Ça c'est plutôt pas mal non cette
C'est plutôt
question.
Pas mal du coup.
Elle devrait venir plutôt en premier, ça veut dire que les gens s'intéressent.
Peut-être qu'elle va remonter, vous inquiétez.
Dans la ville, petite. Qu'est-ce qu'elle fait dans la... Ou âge aussi, je crois. L'âge aussi. Les gens veulent savoir quel âge j'ai.
Peut-être.
Ouais, je crois. Bah,
ça, les gens, tout, la taille, l'âge, ça c'est.
La taille,
bizarre.
L'âge, le poids.
Voilà.
Et avec qui on couche. Voilà. Super. Merci.
Super. Alors attendez, parce que je regarde un petit peu le temps qui nous reste pour un petit
10 minutes. Non, ah. Moins. 5.
5 minutes, c'est très bien. 5 minutes. Alors, vous en parlez tout à l'heure, vous avez un fils, il a quel âge ?
Mon fils a 17 ans, il s'appelle Luigi. Et bon, bah voilà, c'est l'amour de ma vie.
Voilà. 17 ans, c'est un peu un âge compliqué ? Ou justement, on a passé l'âge compliqué à cet âge-là ?
Il n'a jamais été compliqué. J'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai un enfant qui n'a jamais eu. Qui n'a jamais été compliqué. Je faisais l'interview de Karine Viard, décidément. Je la cite beaucoup. Mais parce que je
c'est peut-être la prochaine invitée du podcast, j'aimerais beaucoup.
C'est une femme formidable et elle a fait un film sur Madame de Sévigné dans laquelle justement elle joue avec Anna Girardot et on voit ce rapport mère-fille qui est atroce parce que Madame de Sévigné voudrait faire de sa fille une fille très indépendante comme elle l'est elle et donc j'ai interviewé Karine Viard au sujet de son rôle sur sa, parce qu'elle même est maman et je lui dis est-ce qu'il vous est arrivé vous telle Madame de Sévigné d'être un peu intrusive et d'écrire 1000 textos à vos filles. Voilà, à l'époque c'était des missives, mais là en l'occurrence des textos. Et elle m'a dit une phrase que je trouve très inspirante. Elle me dit, mais non, parce que moi j'ai élevé mes enfants dans l'idée qu'en fait, s'ils avaient envie de me voir, c'était plutôt par plaisir que par devoir. Et c'est vrai que moi j'essaie d'être cette mère pas intrusive pour que mon fils ait envie de me voir par plaisir et pas par devoir. Mmh. Donc quand il n'a pas envie de me voir, je me dis que c'est qu'il a mieux à faire. Et à 17 ans, on a mieux à faire que de rester avec sa mère à la maison. C'est vrai, non ?
Une belle relation en tout cas.
Oui, vraiment. Parce que quand il me voit, c'est qu'il en a envie. C'est-à-dire pas
d'obligation.
Non, mais bon, c'est très
c'est
bien.
Naturel en tout cas.
Oui, c'est naturel, voilà. Exactement. Et c'est pas un enfant qui est dans la culpabilité en train de me dire « Maman, je vais pas pouvoir être là ce soir pour rester avec toi ». Il fait sa vie. Et moi, je suis fière qu'il fasse sa vie. Les enfants sont faits pour décoller de chez nous, hein, pour s'envoler. Mmh. Hein. Faut s'habituer, hein. Si vous en avez, préparez-vous, ils vont partir.
Non, j'en ai pas encore, mais
préparez-vous, ils vont partir un jour. Hein. Ah vraiment, ils sont là, il n'y a pas plus ingrat qu'un enfant, et tant mieux.
Ça passe très vite, paraît-il.
Ouais, mais tant mieux qu'ils soient ingrats. Heureusement que nos enfants ne sont pas en train de se dire « Ah, oh, ben, je ne peux pas faire ça à ma mère, je ne peux pas partir, je vais rester
avec elle. » Jusqu'à mes 40
elle.
Ans.
Voilà. Non, donc merci. Moi, je suis très fière que mon fils ait très envie d'être loin de sa mère.
On va parler un petit peu des projets. Donc vous avez animé récemment ce prime autour de la mémoire. Est-ce que vous espérez que ce jeu revienne rapidement ?
Moi, j'espère avoir un maximum de challenges à venir. Comme je vous disais, je suis un peu shootée, je pense, à cause de cette formation de casting, etc. Shootée à l'adrénaline et aux nouvelles expériences. Donc cette expérience du direct en prime, j'ai adoré. Là, je viens de tourner une émission qui me plaît beaucoup sur les sosies vocaux.
Mm-hmm. Voix de star.
Voix de star, exactement. Et ça, j'ai adoré aussi d'être un peu dans un autre rôle, hein, finalement, de meneuse de revue, disons. Même si c'est pas moi qui lève la jambe. Mais en tout cas, de faire le go-between, c'est-à-dire de faire le lien entre les artistes qui viennent se produire et le jury et le public qui va les juger. J'ai trouvé ça très agréable de faire ce lien-là.
Donc on va devoir deviner s'il s'agit...
En fait, le jury et le public à 50-50 va devoir voter pour savoir si la voix qui vient d'être entendue est bien une voix de sosie vocale. Qu'est-ce qu'un sosie vocal ? La question est importante. Ce n'est pas un imitateur. Un imitateur comme Michael Gregorio qui fait partie du jury peut, ou même Liane Folie peut vous imiter une centaine de voix. Un sosie vocal n'est pas un imitateur. C'est une personne qui est capable, quand il parle et quand il chante, si vous fermez les yeux, vous avez affaire à l'artiste unique dont il est le sosie vocal. Donc ce n'est pas un imitateur qui a une centaine de voix, c'est une personne qui a une seule voix, qui est celle de l'artiste unique. C'est pas le meilleur chanteur non plus, c'est pas The Voice, on n'est pas en train de voir qui chante le mieux, mais en fait qui est le sosie vocal de la personne, ça c'est ce que le jury et le public va chercher et va voter.
Ça va être bluffant.
Ah, c'est génial. Toujours, parce qu'en plus, ce qui est génial, étonnée, c'est que parfois, vous avez admirative. Des gens qui ne ressemblent pas du tout physiquement à
oui,
la voix.
C'est ça, ça peut être assez troublant.
Mais c'est extrêmement troublant, c'est génial. Et en fait, les producteurs qui ont pensé cette émission sont partis d'un vrai phénomène de société. Il y a de plus en plus de tributes, comme on dit, c'est-à-dire des hommages faits à des artistes, que ce soit les Goldman, qui seront présents d'ailleurs au cours de l'émission, qui est un groupe qui rend hommage aux chansons de Jean-Jacques Goldman, mais également Elton John. Il y a un gars qui n'est pas le vrai Elton John, mais qui fait toutes les chansons d'Elton John qui sera avec nous. Mes parents, pour Noël, ont reçu un cadeau pour aller voir les Beatles. Alors, donc, pas les vrais, mais le tribute.
C'est vrai qu'il y a toute cette nostalgie, que ce soit à la télévision, dans la musique.
Et ça cartonne. Et les producteurs, de manière très opportuniste, et ont eu bien raison de s'emparer de ce phénomène de société. Et voilà, et de mettre en avant ces sosies vocaux qui, par ailleurs, tous les week-ends, sillonnent la France pour passer des concours. Hein. C'est un vrai phénomène. Et donc, moi, je les ai fréquentés le temps de deux soirées. Et j'espère que ça va rencontrer son public, parce que c'était vraiment hyper réjouissant de faire ça. J'ai adoré.
On a hâte de voir cette mécanique, en tout cas. Et puis peut-être bientôt un prime d'affaires conclu.
Oui, on en a tourné un. On en a tourné un et on attend de savoir quand est-ce que ça va être diffusé. En tout cas, le principe est simple, c'est un duel des brocantes. Une équipe qui se trouve à Lille-sur-la-Sorgue et une équipe qui se trouve à Lille-sur-la-Sorgue et une autre qui se trouve à Lisieux, et avec des experts à chaque fois qui les aident à bien acheter sur une brocante au cul du camion, c'est l'expression consacrée, dès 6h du matin.
Génial.
On était avec la lampe torche en train de chercher les meilleurs objets pour ensuite les vendre et faire le plus grand bénéfice possible. C'est ça la mécanique de l'émission. Le
très
duel
bien.
Des brocantes.
Bon, bah alors on a hâte de voir ça. C'est aussi tout un phénomène. On a les chinés, c'est
ah bah oui,
incroyable.
Ça aussi. Hein,
mais depuis
ça...
des années. Donc,
et puis avec les temps qui courent, c'est-à-dire bah voilà, cette nécessité de ne pas surconsommer.
Enfin, je veux dire, du c'est, neuf, quoi.
Finalement, Affaire conclue est une émission, certes, qui a 7 ans, mais c'est une émission qui était précurseur et hyper tendance. De ne pas jeter, de restaurer ces objets. On a ce petit programme à l'issue de l'émission qui s'appelle La vie des objets, qui, où on voit qu'en fait les objets, il ne faut pas les jeter. La plupart du temps, il faut les restaurer. On peut leur donner une autre vie. Moi, je trouve que c'est des sujets qui sont très importants à l'heure où on se parle.
Est-ce que vous-même, vous avez fait des acquisitions dans l'émission?
Oui, moi-même, j'ai fait des acquisitions. Alors, pas dans le cadre de l'émission, parce que je trouve que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'animatrice qui va acheter les
ça
objets.
Ça vous a donné envie après.
Mais du coup, je suis allée au Opus, j'ai pris les photos des objets qui me plaisaient, je suis allée les chercher sur Internet pour voir s'il y en avait qui ressemblaient. Oui, en fait, je puise mes inspirations.
Cher.
Oui, les puces, c'est très cher. J'ai acheté
j'habite
un truc.
Saint-Ouen, moi.
Ouais, c'est très, très cher. Il faut négocier.
Oui, oui, oui.
Tout.
Et en fait, quand on voit les prix en province, dans les petites brocantes de région, c'est là qu'il faut faire des affaires.
Lille sur la Sorgue, c'est comme Paris. Hein.
Oui.
C'est comme y a des endroits comme ça où c'est particulièrement cher. Et il faut savoir, bien négocier.
Déceler,
et pas être pris pour un
l'arnaque
pigeon.
L'arnaque un petit peu.
Et pas être pris pour un pigeon, parce qu'effectivement, ça peut vite arriver. D'où le duel des brocantes, avec des petits tips, des petites astuces.
Bien utiles.
Voilà, pour ne pas se faire avoir quand on brocante.
Et donc, on va bientôt, on va devoir se quitter.
Oh,
voilà,
ben
on a quand même passé 50 minutes ensemble.
On a déroulé ma vie,
top.
Là. Hein.
Est-ce qu'on a bien déroulé votre vie?
Ah ben on était, on
hein,
est,
je crois
on a
qu'on
commencé
est
par l'enfance et on a terminé par mon âge.
On est obligé d'aller un peu plus vite. Hein, mais
On a terminé par mon âge, 48 balais, plus les projets qui vont me mener, je vous l'ai dit, encore 30 ans sur Affaire conclue. Donc,
Et ben on va refaire un petit retour en arrière. Quand vous regardez le parcours que vous avez parcouru, vous êtes fière?
Ah, moi, je suis extrêmement fière du parcours. C'est pas l'endroit où on arrive qui compte, c'est le chemin. Alors, qui nous a dit ça? Il faudra retrouver sur Internet. Mais en tout cas, tout ça est tout à fait vrai. C'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Et le chemin, je l'ai trouvé beau, quoi. Parce qu'il a été escarpé, il y a eu des fausses routes, il y a eu des chemins moins évidents que d'autres, il y a eu des autoroutes parfois. C'est chouette quand même. Enfin, moi, je suis très fière. Je suis très fière, ouais. Alors, est-ce que je suis fière de moi? Je ne sais pas. Parce que est-ce que c'est moi qui ai créé tout ça? Pas sûr. Mais en tout cas, ce que je peux dire de moi, c'est que de temps en temps, j'ai su voir les opportunités et les saisir. J'ai su ne pas passer à côté. Voilà. Après, tout n'est pas grâce à moi. C'est beaucoup de chance aussi. Mais je peux être fière au moins d'avoir saisi les opportunités et de les avoir vues.
Qu'est-ce qui vous ferait vibrer encore plus là ?
Ah bah de voir d'autres, de continuer.
Du cinéma ou de la télé ? Les deux ?
Vraiment, là je vais vous dire la télé parce que c'est ce qui me paraît le plus évident. Mais si demain d'un seul coup je voyais l'autoroute se profiler vers le cinéma, je la prendrais. J'ai pas envie de souffrir, on l'a déjà dit. Je vais vers ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus évident. Parce que finalement, pourquoi tourner le dos aux bras qui s'ouvrent ? Moi j'ai envie de câlins. Hein.
Je trouve que c'est une belle phrase de fin.
Hein, allez, venez, on va se faire un câlin. J'ai mis un peu de soleil dans cette journée morose.
On a commencé par le soleil
et
tombé
de plus sombre en plus. Bon, je vous fais des câlins à tous.
Et voilà. Merci
je
beaucoup, Julia.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !